ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mercredi 4 mai 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau, très heureuse de vous retrouver pour notre dernière émission cette semaine. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis midi. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic CVLD pour Ça vaut le détour ou @canal_m sur Twitter. Vous pouvez commenter sur l'actualité ou réagir aux propos de nos invités. Aujourd'hui, on a une émission justement tournée sur des enjeux sociaux actuels. Sylvie Lauzon, directrice de la Fondation Les Petits Trésors, sera dans nos studios pour parler d'une activité de sensibilisation qui aura lieu ce vendredi 6 mai sur la prévention du suicide chez les jeunes. En pleine semaine nationale de la santé mentale, il est important de briser le tabou entourant le suicide chez les jeunes et de mettre en place des outils pour prévenir la dépression et les comportements suicidaires. On découvre aussi l'organisme Le Baluchon Alzheimer, une ressource de répit à la maison. On reçoit Geneviève Ligne, conseillère aux familles et aux baluchonneuses. On a très hâte de découvrir ce service disponible partout au Québec. En première partie d'émission, on reçoit Valérie Campa et Caroline Lebeau, fondatrices de Regard Neuf, une maison d'édition qui favorise le développement moteur des enfants et les sensibilise aux différences individuelles. Mais d'abord, vous avez peut-être entendu parler dans les médias de la conférence de presse donnée hier par le réseau FADOC, appuyée par une vingtaine d'organismes de défense de droits, sur une poursuite pour forcer le gouvernement fédéral à interdire les frais accessoires dans le réseau de la santé québécois. On fait le point avec M. Danny Prudhomme, directeur général du réseau FADOC. Bonjour, M. Prudhomme.
Bonjour à vous.
Merci de prendre le temps de nous parler de cet enjeu aujourd'hui. C'est une grosse sortie médiatique qu'on a eue hier. D'abord, question de bien comprendre l'objet de la poursuite. Que sont les frais accessoires?
En fait, c'est tous ces frais qui, au Québec, sont chargés depuis plus d'une dizaine d'années et qui, avec le projet de loi 20 déposé par le gouvernement actuel à l'automne dernier, a fait qu'on venait légaliser ces frais-là en les encadrant. Ces frais-là sont quoi? En fait, vous avez des gouttes ophtalmologiques qui, en réalité, peuvent coûter quelques sous à 1 $ ou on va charger 40, 50, 60 $ au patient. Mm-hmm. L'anesthésie pour une colonoscopie qui peut coûter quelques dollars, qu'on va lui en charger 500. Donc, et la liste, là, s'additionne de plusieurs autres frais du genre. Donc, ça, au Québec, en tant que tel, on l'a, par l'entremise de cette loi-là 20, je vous parlais, voulu légaliser et encadrer, alors que dans la loi canadienne sur la santé, c'est spécifiquement dit qu'il est illégal d'avoir toutes sortes de frais de ce genre.
D'autant plus que ce sont des montants qui semblent très gonflés et donc ça peut rendre un accès aux soins de santé beaucoup plus difficile pour certains patients.
Tout à fait. Et c'est une des principales raisons, c'est-à-dire que pour l'instant, à ce qu'on sache, à travers le Canada, donc dans toutes les provinces, même si c'est une juridiction provinciale d'appliquer, la base, la loi, elle est fédérale et ça dit que toute personne résidant au Canada, donc dans chacune des provinces, a droit à un système de santé accessible, universel et gratuit. Donc là, on en est à un peu décomposer notre système en morceaux où là, on doit payer ou pas payer, puis ce que ça fait, en fait, surtout chez les aînés, donc une des raisons pour laquelle on est là, mais tout le monde, en réalité, là, paye ces frais-là. Mm-hmm. Ben, chez les aînés, quand on pense que les 75 ans et plus, ils font moins 1 sur 2, fait moins de 20 000, ben là, à ce moment-là, ça devient on joue avec notre santé, là, parce qu'on va devoir couper à quelque part. On pourra pas le payer, là.
Tout à fait. Il y a des frais accessoires. Il y a certaines sources qui disent que c'est évalué à 70 millions. D'autres sources qui disent que les patients québécois versent déjà 50 millions de dollars par année aux médecins en frais accessoires, 40 millions aux spécialistes, 10 millions aux omnipraticiens. Comment on s'y retrouve dans ces chiffres?
Ben, écoutez, ces chiffres-là sont basés sur le coût que les gens paient actuellement. Mais si on regarde le coût réel, on pourrait dire que c'est un gros ballon, là, parce que, dans le fond, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a des choses qui varient entre quelques sous à quelques dollars, ben, quand on en paie 500, on vient d'avoir une hausse faramineuse de profit ajouté par-dessus le vrai coût, là. Donc, c'est pour ça que peut-être on augmente si rapidement aux chiffres qu'on voit véhiculer, comme le ministre lui-même l'a 50 millions, là. C'est le ministre de sa bouche lui-même, là. Donc, à ce moment-là, ben, si c'est le coût réel que les gens paient qu'on dit, oui, ça pourrait être 50 millions, mais si c'est le coût réel du produit, ben là, ça va être beaucoup moins que ça, là.
Mm-hmm. M. Prudhomme, l'objectif de la poursuite est de forcer le gouvernement du Québec à interdire les frais accessoires au lieu de les encadrer, comme il comptait le faire avec la loi 20. Pourquoi passer par le fédéral?
Ben écoutez, parce que ça fait depuis la fin de l'été que nous, le réseau FADOC, toutes les organisations qui sont en appui et en soutien, ainsi que bien d'autres, incluant des individus, ont essayé de faire changer le gouvernement actuel au Québec de position face aux frais accessoires, donc de les éliminer. Ça n'a rien donné. On a vraiment essayé toutes les avenues possibles. La seule qui demeurait, c'était de déposer une requête en Cour fédérale pour demander aux législateurs, par l'intermédiaire du gouvernement, donc fédéral, de dire au Québec que c'était pas légal et qu'il devait arrêter tout de suite cette pratique-là. À titre d'exemple, le gouvernement fédéral est déjà intervenu dans d'autres provinces pour des choses similaires, là, en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, puis pour une raison qu'on ignore jamais au Québec.
Oui, justement, ça faisait partie de mes questions. Pourquoi tarder à intervenir au Québec alors qu'on sait que ça a eu, qu'il y a eu un impact dans d'autres provinces, justement?
Écoutez, c'est difficile parce qu'on premièrement, c'est plus le même gouvernement qui est là. C'est un nouveau gouvernement depuis pas très longtemps. Mm-hmm. On peut pas se l'expliquer. Parce que, est-ce qu'on se basait sur les rapports qui étaient envoyés par le gouvernement du Québec au gouvernement du Canada? Parce qu'il faut bien le dire, jusqu'au dernier rapport, celui qu'on a vu en 2014, ça dit bien que tout est conforme mais qu'il n'y a pas de frais additionnel, alors que c'est totalement faux, parce qu'il y a des frais additionnels au Québec et de plus en plus depuis plus de 10 ans, là. Donc là, est-ce qu'on se basait sur ces rapports-là pour ne pas intervenir, alors qu'on voyait bien dans les médias, là, on le voit, là, c'est pas d'hier que c'est dans les médias, mm-hmm. qu'il y a des frais pour nos gens au Québec. Alors, en déposant cette demande-là en Cour fédérale, on vient enlever toute ambiguïté et on vient dire arrêtez la pratique et faites respecter vos lois au Québec.
Comment est-ce qu'on explique justement cette hausse des frais accessoires, surtout dans les dernières années, mais vous venez de le mentionner, ça fait 10 ans que c'est déjà présent, c'est une pratique présente dans le système de la santé. Qu'est-ce qui explique cette augmentation?
Ben, écoutez, je pense que ce qu'on voit, c'est au Québec, on assiste tranquillement, pas vite, depuis bien des années, il y a bien des gens qui aiment pas ça, là, mais à un désengagement du gouvernement face au système de santé. C'est-à-dire que les investissements qui y sont faits sont bien en deçà de ce que la population a besoin. Si on regarde au niveau de l'accroissement, ne serait-ce que des 50 ans et plus, et notamment des 65 ans et plus. Donc, au Québec, la pyramide d'âge 65 plus versus les 15 et moins s'est inversée entre 2011 et 2012. Donc, c'est sûr et certain que quand on vieillit, malheureusement, notre corps a des défaillances, c'est comme une machine, et là, on commence à avoir besoin de certains soins. Donc, les deux bouts du spectre, quand on est et quand on malheureusement, on arrive vers l'autre bout du décès, mm-hmm. c'est là que les soins vont être le plus coûteux. Et on dirait qu'avec le vieillissement de la population, c'est comme si le Québec n'avait pas pris en compte que ben faudrait peut-être revoir notre système, être novateur, faire ça différemment, aller voir dans d'autres pays, comment on fait ça par rapport au vieillissement de la population. Ou ici, au lieu de faire ça, on a voulu toujours mettre, en bon français, là, un plaster, un band-aid, mm-hmm. en disant, ben on va charger là, on va aller jeter de l'argent de plus faire ça, on va aller... Et c'est pas la façon de faire, là.
Est-ce que c'est une des raisons pourquoi la FADOC a décidé d'être un chef de file dans cette lutte aux frais accessoires?
Ben, c'est surtout parce que ça fait des années et des années qu'on demande à ce qu'il y ait un débat public sur le système de santé. On en a fait un dans les années 60, ça a donné ce qu'on a aujourd'hui, qui a très bien fonctionné, mais là, je pense qu'il est rendu à sa capacité maximale pour pouvoir continuer à fonctionner un autre 40 ans. On va devoir le revisiter, même le revamper et innover, et ça, on peut pas faire ça derrière des portes des portes closes entre 4 ou 5 personnes. Si ça prend un débat de société à savoir ce qu'on veut et comment on veut aller de l'avant.
Monsieur Prudhomme, en terminant, depuis quelques jours, on a entendu dire lundi, c'est quand même un drôle de hasard, que le ministre Barrette reculerait sur la question, qu'il était maintenant prêt à abolir les frais accessoires, à les inclure plutôt dans la rémunération globale des médecins, qui doit faire prochainement l'objet de négociations. Vous allez quand même aller de l'avant avec la poursuite?
Tout à fait. Tout à fait, parce que là, ce qu'on va faire, c'est de la négociation sur le dos des gens. Et nous, ce qu'on dit, c'est que les frais sont illégaux, donc il faut les arrêter maintenant. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est vraiment comique. Nous, on a fait paraître un avis aux médias le dimanche et le lundi, ça sortait dans la presse plus. Alors, de ce côté-là, on pense que c'était pour essayer de nous contrecarrer. Mm-hmm. Quand mardi, on est sorti, on voit là, de ce matin, il y a un autre article qui est paru autour de 11h15 qui dit que le ministre va mettre fin aux frais accessoires dès cet été et ça ne sera pas à l'intérieur des négociations avec les médecins. Donc, encore une fois, il vient de changer son fusil d'épaule. Dans le fond, il fait volte-face. Écoutez, on va continuer quand même avec la poursuite parce que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas la certitude qu'ils sont aujourd'hui annulés ou la journée qu'ils le seront, là, on revisitera par rapport à notre poursuite.
Mm-hmm. La requête, donc, pourra être entendue. On évalue dans les 9 à 12 prochains mois. On va se tenir au courant. Merci beaucoup, Danny Prudhomme, directeur général du réseau FADOC. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ce phénomène aujourd'hui.
Merci à vous.
Mis ton tiempo.
Marie-Ève Roy avec sa pièce Golden Bee, tirée de son album Bleu Nelson. Marie-Ève Roy qu'on connaît aussi des vulgaires machins. Donc, c'est une petite chanson de la scène locale. Aujourd'hui, c'est notre segment culturel, littéraire, social. J'accueille dans les studios de Canal M mesdames Valérie Campa et Caroline Lebeau, qui sont fondatrices, cofondatrices, en fait, des éditions Regard Neuf. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Regard Neuf, une petite maison d'édition encore toute jeune. Vous mettez l'accent sur le développement affectif, moteur, intellectuel et social des enfants. Comment ça se passe dans le concret?
Dans le fond, nous, on a vraiment parti ça. Caroline est éducatrice et moi, je suis ergothérapeute. Fait qu'on a vraiment créé Regard Neuf afin de répondre aux besoins qu'on observe. Parce que le nombre d'enfants en situation de handicap n'arrête pas d'augmenter. Actuellement, ça représente 1 enfant sur 5 au Québec. Donc, avec cette augmentation-là, puis le fait qu'il y ait de plus en plus de coupures au niveau des ressources, on a vraiment décidé de créer une maison d'édition pour rendre accessible à tous aux parents, professionnels dans le domaine de la santé et de l'éducation. Dans le fond, l'ergothérapie et l'éducation.
C'est vraiment pour aller plutôt dans des aspects quotidiens de l'enfance. On parle de la petite enfance ou aussi des jeunes qui vont plus vers 10-12 ans?
Aussi des jeunes. En fait, on voulait faire des outils simples, colorés et vulgarisés pour qu'ils soient utilisés au quotidien dans la vie des parents, dans la vie des enseignants ou dans la vie des professionnels de l'éducation et de la santé.
Puis c'est plusieurs... en fait, vous avez plusieurs livres, plusieurs collection, on peut dire que ça va dans différents thèmes?
Oui, on peut aborder les 3 collections de notre maison d'édition.
Oui, donc la première, c'est Ergo Édition. C'est une maison d'édition qui vise à rendre l'ergothérapie accessible à tous, car il y a très peu de ressources. Donc, c'est vraiment des activités qui sont simples à réaliser, amusantes. Puis dans chacun des livres, on explique comment graduer le niveau des difficultés, comment l'adapter à chaque enfant, étant donné que chaque enfant est unique et se développe à son rythme.
Et également la collection Une journée dans la vie de. Donc, on explique simplement à travers une histoire avec des fiches vulgarisées, c'est quoi la réalité d'un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, une déficience motrice ou un trouble primaire du langage, une dysphasie. Parce qu'en réalité, on veut adapter nos comportements, on veut aider cet enfant-là, on veut diminuer les différences, l'intimidation, puis s'assurer qu'on adapte son environnement comme il le faut. Et également la collection Les champions. On trouvait que dans la littérature jeunesse, il y avait très peu de livres qui intégraient des personnages en situation de handicap, alors que ces enfants-là sont hyper contents de s'y voir. Et également, on fait toujours ressortir les côtés positifs des enfants. Leurs difficultés deviennent des forces.
C'est vraiment c'est un besoin que vous avez remarqué autour de vous du fait de vos professions, du fait de votre expertise sur le terrain?
Mais il y avait beaucoup d'intimidation auprès des enfants dits différents. Tous les enfants sont uniques. Et puis, c'était une façon de faire travailler, entre autres, pour créer ces livres-là. On a embauché des personnes en situation de handicap. On les a jumelés avec des enfants qui n'étaient pas en situation de handicap. Puis, on leur a montré comment tout le monde était merveilleux puis il y avait des habiletés différentes puis qu'il fallait travailler tous ensemble.
Est-ce que où est-ce que vous êtes distribué jusqu'à maintenant? C'est quoi la demande pour ces livres-là? Est-ce qu'il y a un aspect, par exemple, celui de l'ergothérapie, est-ce qu'il se retrouve dans un milieu en particulier par rapport aux histoires des champions?
C'est assez varié. Autant les éducateurs spécialisés les CPE, les écoles, les hôpitaux, les centres de réadaptation.
Et les universités.
Les universités, les cégeps. Oui. On a des demandes un petit peu partout, les parents. En fait, on est distribué sur notre boutique en ligne. Mm-hmm. On est distribué chez FDMT. On est distribué dans toutes les bonnes librairies. Et également, on vend au Québec et également à l'international.
À l'international, déjà, même si ça fait peine
un an
que vous existez. Super. Et oui, est-ce que vous remarquez justement une demande qui vient de pays francophones? Je suppose que la collection est en français.
Au Québec, oui, actuellement. Puis au Québec, on est quand même bien avancé dans ces sujets-là. Alors, c'est très apprécié. On vulgarise le matériel, finalement, pour qu'il soit accessible. On démocratise le savoir, comme on dit des fois. Effectivement.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est en vente, exactement. On a fait des ventes en France, en Suisse, Belgique, Nouvelle-Calédonie, Île-de-la-Réunion. Donc, il y a vraiment beaucoup de besoins parce que, dans le fond, des outils spécialisés comme on fait, mais qui sont quand même vulgarisés et accessibles à tous, il y en a très peu qui existent. Donc, il y a vraiment une forte demande.
Oui, la traduction, on a en anglais, on a eu des demandes également.
Super, on voit vraiment que c'est en expansion, c'est vraiment une bonne nouvelle. Valérie Campa, est-ce que ça a... Est-ce que vous avez eu des défis à vulgariser votre savoir justement en ergothérapie? Parce que c'était l'objectif de rendre l'ergothérapie plus accessible à tous.
Mais qu'est-ce que l'ergothérapie, Valérie?
On va peut-être l'expliquer brièvement. Donc, l'ergothérapie, c'est quand même très vaste, mais notre but, c'est vraiment de rendre la personne le plus autonome dans toutes les activités de son quotidien. Donc, que ce soit autant l'habillage, l'écriture, d'être capable de jouer tout en utilisant les intérêts. Puis le plus grand intérêt des enfants, c'est le jeu. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment l'objectif de vulgariser. Oui, c'est un très beau défi parce qu'à l'université, c'est sûr qu'on voit énormément de théories, mais le rendre concret pour que tout le monde puisse l'utiliser très facilement, c'est un beau défi. Donc, vive les groupes témoins pour pouvoir tester le matériel.
Est-ce que, bon, ça, c'est un exemple, si on veut, du volet plus développement moteur. Oui. Il y a aussi, justement, ce volet développement social. C'est quelque chose qui est très présent chez vous, ce désir de vraiment travailler à une meilleure inclusion sociale des enfants en situation de handicap.
Oui, il y a plusieurs enseignants qui nous ont dit qu'après avoir utilisé les livres, c'était plus facile d'expliquer aux autres enfants pourquoi un enfant portait des coquilles, par exemple, pourquoi il y avait une minuterie visuelle, ou même il y avait un enfant qui avait un trouble primaire du langage. Et puis, finalement, le niveau était trop fort dans la classe. Il a dû aller dans une autre classe. Puis l'enseignante ne savait pas comment leur expliquer sans dire que l'enfant avait, bon, trop des difficultés. Mm-hmm. Et puis, les enfants ont tout de suite fait le lien avec d'autres personnages. Ils ont dit, mais c'est comme Kevin, un des personnages, lui a besoin d'une rampe d'accès pour aller à l'école. Elle a juste besoin des phrases plus courtes. C'est notre amie quand même. Puis l'enseignante était comme vraiment contente parce qu'ils ont répondu eux-mêmes avant qu'elle ait eu besoin de l'expliquer.
C'est vraiment, on voit vraiment concrètement qu'est-ce que ça peut créer chez les enfants, cette compréhension-là. Et des enfants qui sont en situation de handicap, quels sont de cloches vous avez? Quelle réception?
Eux, ils sont très heureux de se retrouver dans la littérature jeunesse. Et puis, nos livres sont tous testés par des enfants en situation de handicap. On les inclut également dans la conception. Donc, ils se reconnaissent énormément dans ces livres-là. Et puis, ils sont contents que les gens... Souvent, on peut avoir des préjugés, des appréhensions. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, comme disent les enfants. Et puis, avec ça, ça leur permet d'avoir une meilleure compréhension avec des images simples, colorées, qui sont à leur image.
Oui, puis aussi pour permettre aux enfants eux-mêmes d'expliquer leur situation à d'autres enfants, pas toujours passer par l'intermédiaire d'un adulte.
Exact, oui. Comme les enfants qui ont une surdité dans les champions, dans l'espace, on a une jeune demoiselle, Kim, qui est sourde. Alors, on présente la langue des signes dans ce livre-là. Donc, les enfants, après, peuvent faire leur nom avec la langue des signes et puis ils sont super contents. Les enfants qui ont une surdité, ils sont très heureux de se promener avec le livre parce qu'ils sont des héros dans un livre pour enfants. Puis les autres enfants essaient de communiquer, apprennent des mots. Puis comme Valérie le dit souvent, c'est comme un langage secret. Puis ils peuvent parler
Absolument.
Entre eux puis se faire deviner des mots.
Absolument, c'est un con. On amène aussi tout l'aspect ludique, en fait, dans ce nouvel apprentissage.
De le normaliser, tout simplement. C'est une autre langue, puis c'est intéressant de pouvoir l'apprendre.
Mm-hmm. Qui sont les auteurs des livres avec qui vous travaillez?
Pour l'instant, c'est nous les auteurs des livres. Donc, c'est tous les livres qu'on a publiés à date, c'est nous. Oui, exactement.
Et puis, on a beaucoup de collaborateurs pour les faire qui nous donnent un coup de main là, avec le contenu, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des centres de réadaptation, que ce soit la Fédération québécoise de l'autisme, pour en nommer plusieurs. Ils sont tous sur le site Internet. Mais effectivement, on veut avoir aussi la perception des professionnels de la santé, qu'est-ce qu'ils vivent, les parents, les personnes en situation de handicap, notre expertise, nos compétences. Alors, on va aussi chercher nos informations là, pour faire le tout et on teste beaucoup le matériel.
Mm-hmm, oui, on voit. C'est quelque chose qui revient souvent de vraiment inclure beaucoup de gens, beaucoup de collaborateurs dans le processus complet pour ces livres. On parle de combien de livres jusqu'à maintenant?
Mais pour l'instant, dans le fond, on en a 6 livres. Puis là, éventuellement, cette année, il y en a 5 autres qu'on vise à sortir aussi. Puis on va également faire affaire avec d'autres collaborateurs. Donc, sur différents sujets, entre autres, il y a un livre qui s'en vient, ça va être sur l'autisme et le deuil. Parce que souvent, c'est très difficile d'expliquer le deuil aux enfants. Et un enfant autiste, c'est quand même un sujet qui est très abstrait. Mm-hmm. Donc, sous forme d'une bande dessinée, vraiment très vulgarisée, puis encore une fois, fait avec plusieurs collaborateurs, elle sera bientôt disponible.
Que l'Université de l'Abitibi-Témiscamingue.
Oui.
Donc, on essaie d'aller aussi partout à travers le Québec parce qu'on trouve que les régions, ils ont beaucoup à apporter et puis ils sont contents quand on va les visiter également.
Est-ce que ce sont des besoins différents ou un public différent que vous rencontrez en région par rapport à... Vous êtes situé à Montréal, dans la couronne de Montréal?
Oui. Mais...
Mais dans le fond, les besoins sont plus grands en région. Parce que souvent, quand ce qu'on va observer sur l'île de Montréal, par exemple, les listes d'attente pour être souvent en réadaptation sont d'environ 2 ans. Quand on va en région, souvent, c'est 4 ans. Fait que les besoins sont encore plus grands. Donc, ce manque de ressources-là, il est frappant là-bas. Fait qu'eux autres sont encore plus contents d'avoir accès à ces outils.
Et c'est pour ça qu'on a un centre de formation également, parce qu'on fait des formations en personne, oui, en petits groupes, que ce soit de 20, 40, 100, 150 personnes, mais également on se dirige vers les formations en ligne pour qu'ils soient accessibles à tous. Donc à partir de septembre, ça va être disponible.
Justement, c'est quelle information on trouve dans les ateliers, les formations que vous offrez?
Dans le fond, dans les formations, notre but, c'est vraiment que ce soit très concret et pratico-pratique. Donc, encore une fois, de prendre la théorie, de la vulgariser et que quand les personnes partent de là, il y ait plein d'idées d'activités. Comme par exemple, dans le cadre du mois de l'autisme, on a offert des formations sur qu'est-ce que c'est nos 7 sens, comment les comprendre, comment interpréter, qu'est-ce qu'on peut mettre en application. Hier, on a donné une formation justement des idées de jeux pédagogiques à réaliser durant l'été pour les parents aussi. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment très varié. Puis, on s'adapte vraiment selon les besoins, puis on en offre sur les demandes et aussi.
Puis, on a également une tournée éducative. Donc, la tournée éducative, c'est Anne qui est mise de l'avant. Et puis, elle sensibilise les enfants aux différences individuelles. C'est une personne de petite taille, elle s'exprime très bien. Les enfants l'apprécient beaucoup et, pour sensibiliser aux gens, les enfants, à s'aimer comme ils sont, puis à mettre leur force puis leur qualité de l'avant.
C'est vraiment un superbe projet. Est-ce que vous êtes présente aussi dans des secteurs plus traditionnels de la littérature, comme les salons du livre, par exemple? Est-ce que ce sont des endroits aussi que vous investissez?
Oui, dans le fond, l'année dernière, on est allé au Salon Jeunesse de Longueuil. Puis on aurait vraiment eu un franc succès parce que c'est vrai que normalement, cette littérature-là, on va davantage la vendre, par exemple, au Salon de l'Autisme. Mm-hmm. Mais au Salon de Longueuil, on a eu une très belle réception. Puis beaucoup d'enfants qui étaient très intéressés et curieux aussi parce que souvent, les parents, justement, ne savent pas comment l'expliquer. Puis c'est une belle façon de l'introduire justement dans l'histoire jeunesse, d'avoir des personnages d'intégrer. Donc, on a vraiment eu une très belle réception. Puis entre autres, il y avait un papa qui, lui, était du jour au lendemain en fauteuil roulant. Il ne savait pas comment l'expliquer à ses enfants. Donc, il a pu acheter le livre justement une journée dans la vie de Kevin pour pouvoir l'expliquer à ses enfants.
Tout à fait. C'est vrai qu'on mettait l'accent particulièrement sur les jeunes, mais effectivement, ça peut être très utile à tous les adultes qui rencontrent une nouvelle situation.
On avait des professionnels de la santé aussi qui ont décidé d'acheter toute la collection pour pouvoir la laisser dans leur salle d'attente, par exemple, pour que les gens aient de la lecture à faire. Fait que c'est vraiment varié au niveau des demandes.
Mais c'est vraiment génial. On vous souhaite un très beau succès avec vos collections, avec ces prochains livres qui vont sortir peut-être cette année. Ça fait beaucoup de boulot. Félicitations, les filles.
Ça va être www.regardneuf.ca.
Oui. On va mettre le lien aussi sur la page de l'émission. Valérie Campa, ergothérapeute, et Caroline Lebeau, éducatrice spécialisée. Vous êtes les fondatrices des éditions Regard Neuf. Merci d'avoir pris le temps de venir nous visiter aujourd'hui.
Merci.
Merci beaucoup.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleau.
Toujours à Ça vaut le détour, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux avec le mot-clic CVLD ou @canal_m sur Twitter. Et on entame cette deuxième partie d'émission avec, on se tourne vers un nouvel organisme qu'on découvre aujourd'hui, une ressource de répit à la maison, le Baluchon Alzheimer. Et j'accueille en studio Mme Geneviève Ling, conseillère aux familles et aux baluchonneuses. Bonjour Mme Ling.
Bonjour Mme Pommer.
Vraiment un mot très, très évocateur, très ludique, le baluchon. Pourquoi avoir choisi ce terme baluchon, baluchonnage, même baluchonneur ou baluchonneuse?
Baluchonneuse.
Pourquoi?
Effectivement, c'est un vocabulaire bien particulier à notre organisme. Je voulais simplement spécifier avant de commencer. On n'est pas si nouveau que ça. On existe depuis 1999 déjà dans la communauté. Puis, baluchon vient de la fondatrice Marie Gendron, qui avait trouvé que les aidants, les proches aidants de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer avaient besoin de repos et de quitter. Alors, elle les invitait à prendre leur petit baluchon et à partir, pendant qu'une accompagnatrice venait la remplacer avec son baluchon à elle. Alors, le terme baluchon a vite collé à la situation. Puis de là a découlé tout le reste du vocabulaire. Un baluchonnage et la période de répit qu'on fait à domicile. La baluchonneuse, c'est la personne qui va à domicile pour faire un baluchonnage.
Un baluchonnage. Oui. Justement, la particularité de votre service, c'est que pendant que l'aidant profite de son répit, l'aidé reste dans son milieu de vie.
Absolument. En fait, c'est ce qui fait qu'on est un service bien particulier. On est même les seuls à offrir ce service-là, du moins au Canada. La Belgique a pris depuis quelques années notre modèle également. Plutôt que de sortir la personne atteinte et de le mettre dans un hébergement temporaire qui souvent peut le désarçonner, hein, modifier ses habitudes, enlever ses repères. C'est des gens qui sont très vulnérables, qui sont, ont plus de difficultés à s'adapter. Alors nous, on propose de les accompagner dans leur milieu. Là où ils ont leurs automatismes, là où ils sont capables d'avoir leurs repères puis de savoir comment faire. Mm-hmm. Puis on propose à ce moment-là, c'est ça, à son aidant de quitter mm-hmm. et d'aller se reposer ailleurs pour se ressourcer.
Justement, oui, surtout la question de l'Alzheimer qui est vraiment, c'est une maladie, si on veut, un état de dégénérescence. Mm-hmm. Et donc, de rester dans son milieu de vie, ça prend encore plus d'importance, sachant que parfois une simple image, un simple meuble, une pièce peut vraiment être le repère de la personne.
Bien, tout à fait, en fait. Hein, c'est que la personne qui est atteinte d'Alzheimer ou de maladies apparentées, on appelle ça des maladies, attention, neurodégénératives. Donc, il y en a plusieurs types de ces maladies-là. Puis, c'est le cerveau qui est plus capable de comprendre correctement son environnement de diverses façons. Je vous passe les détails qui sont un peu complexes, mais ça fait en sorte que devant une situation nouvelle, la personne n'est pas capable de s'adapter ou même de reconnaître des objets qu'elle connaît déjà.
Et vous êtes soutenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux depuis 2007. Oui. Donc, je présume que ça vous a aidé dans l'accomplissement de votre mission, de vos baluchonnages.
Bien, en fait, c'est une excellente question parce qu'à l'origine, Mme Gendron faisait elle-même les accompagnements. Ça fonctionnait simplement par fonds et dons privés. On était obligé de charger à la famille de facturer 100 $ par 24 heures pour faire les frais. Mm-hmm. Donc, on s'adressait à une clientèle particulière hein, qui avait les moyens déjà de payer ces frais-là parce que c'était une semaine à deux semaines consécutives. Alors, c'était un minimum de 700 $. Donc, c'est déjà une population particulière. Aussi, elle accompagnait des personnes souvent en début de maladie, quand les symptômes sont davantage seulement des troubles de mémoire, mm-hmm. Des faits immédiats, par exemple, ou de la mémoire très récente. Quand le ministère a trouvé en 2007 que Baluchon était vraiment un organisme qui offrait un service, une aide importante pour le soutien à domicile, puis voyant les difficultés que l'organisme avait à ce moment-là, dit « Tiens, on va vous épauler et on va vous offrir des subventions récurrentes annuellement pour défrayer le service à toute la population. » Ce que ça a amené, premièrement, c'est que les familles n'avaient plus que 15 $ à payer par 24 heures. Le gouvernement prenant le reste de la famille, la facture plutôt. Aussi, ce que ça a amené, c'est un changement de clientèle. Parce que là, tout d'un coup, tout le monde y avait accès. Puis, c'est le réseau de la santé qui va faire l'évaluation des demandes mm-hmm. et nous envoie par la suite les demandes de baluchonnage. Donc, les personnes plus atteintes vont pouvoir avoir le service aussi de baluchon.
Donc, c'est vraiment un meilleur accès, finalement, à ce service-là. Oui. Est-ce que vous aidez plusieurs personnes? On parle de combien de personnes? Parce que c'est un service qui est partout au Québec, je pense.
On couvre tout le territoire du Québec. En fait, 12 des régions administratives du Québec peuvent avoir les services de baluchonnage. Puis, on fait, depuis quelques années, autour de 1900 jours d'accompagnement, ce qui représente autour de 200 familles, par exemple.
200 mm-hmm. familles, c'est vraiment c'est un chiffre non négligeable.
Non négligeable.
Surtout que, justement, les personnes atteintes d'Alzheimer sont parfois délaissées, si on veut, par le système.
Il y a beaucoup de ressources, par exemple, pour les proches aidants qui vivent avec des personnes autistes ou avec une déficience intellectuelle, mais oui. Alzheimer, on y pense moins.
Oui, bien, la charge est plus lourde aussi. Puis je dirais que, en fait, les gens qui sont atteints de la maladie ont des bons soutiens, hein, des bons services médicaux. Il n'y a rien à redire. On est choyé au Québec pour ça. Mais les aidants de ces personnes-là sont souvent même considérés comme des acteurs dans le soutien à domicile, alors, et non pas comme des gens qui ont besoin aussi de répit et d'accompagnement.
Mm-hmm. Comment se passent les étapes avant le baluchonnage, les premiers contacts avec vous? Comment ça fonctionne?
En fait, la famille doit faire la demande d'accompagnement auprès de sa travailleuse sociale ou travailleur social. Généralement, c'est même eux qui vont suggérer le répit possible par baluchon. Une fois que le travailleur social a cette demande-là en main, il nous la transfère. Nous regardons si ça répond, en fait, à nos critères d'accompagnement, parce qu'on est quand même limité dans ce qu'on peut faire. C'est vraiment spécifique à la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Suite à ça, une de nos coordonnatrices va contacter la famille pour poser quelques questions au téléphone à l'aidant pour savoir les habitudes, le milieu, l'environnement, comment ça se passe. Et on a une directrice des services cliniques qui, elle, va analyser la demande et tenter de trouver la bonne baluchonneuse pour faire le bon accompagnement.
Exact, c'est ça. Il y a un processus de mariage, si on veut, entre la baluchonneuse et la personne aidée.
De jumelage, en
de
fait.
Jumelage, oui.
On a pas loin de 22 baluchonneuses qui couvrent le Québec actuellement. Puis je vous dirais que c'est 22 personnalités différentes, avec des histoires différentes aussi, des expériences différentes. Alors, on essaie vraiment d'arrimer pour qu'il y ait le plus d'affinité, en fait, pour que la transition entre l'arrivée de notre baluchonneuse puis le départ de l'aidant se fasse le plus doucement possible.
Ces baluchonneuses, est-ce qu'elles ont un bagage particulier? Est-ce qu'elles doivent avoir eu des études en santé, par exemple? Ou est-ce qu'elles sont bénévoles? Est-ce qu'elles sont rémunérées? Comment ça se passe?
Excellente question. Elles sont rémunérées. Premièrement, ce ne sont pas des bénévoles. Elles sont formées aussi par baluchon. À l'embauche, elles ont 35 heures de formation sur la maladie, aussi sur la façon d'accompagner les personnes atteintes d'Alzheimer. Puis par la suite, pendant l'année, elles ont 2 formations de 14 heures sur l'accompagnement et la maladie. À la base, quand on les embauche, bien qu'on ne les embauche pas spécifiquement pour leurs compétences et connaissances, la plupart, à l'heure actuelle, sont des personnes qui arrivent déjà du réseau de la santé, des préposés, des auxiliaires, des techniciennes en travail social. Puis on va aussi regarder et surtout regarder leur façon d'être. On veut être un service humain, on ne va pas faire une évaluation médicale. On est là pour accompagner, suggérer et comprendre l'aidant.
Justement, vous parlez d'accompagnement. Il y a comme aussi une... En fait, les baluchonneuses peuvent proposer des stratégies aussi. Elles arrivent avec leurs connaissances, leur formation pour faire face à différentes situations difficiles. Ça devient aussi tout de même... une sorte de service de consultation.
Absolument. On dit que c'est un de nos volets d'information aussi. À la fin de l'accompagnement, 2 semaines après le baluchonnage, les familles reçoivent un journal d'accompagnement dans lequel on voit des observations sur comment sont les activités de la vie quotidienne, est-ce qu'ils se débrouillent seuls, puis des situations qui ont été difficiles, soit pour l'aidant ou soit que la baluchonneuse a vu. Puis on peut suggérer des différentes actions, des aménagements à faire pour faciliter le rôle de l'aidant.
Est-ce qu'il y a une liste d'attente où vous arrivez vraiment à soutenir tout le monde qui vous fait une demande?
J'aimerais bien pouvoir dire qu'on arrive à soutenir tout le monde qui en a besoin ou tout le monde qui fait la demande, mais actuellement, surtout pendant la période de l'été, il y a une liste d'attente, effectivement, parce que la subvention dont vous parliez en 2007, elle est grosso modo la même maintenant.
Donc, même si les besoins ont augmenté, les demandes
ont augmenté. Les besoins, effectivement, tout ça a augmenté. Alors, la demande, elle est plus grande actuellement que ce qu'on peut offrir financièrement. C'est pas une question de ressources humaines, c'est vraiment une question de bêtement de budget.
Si on veut vous soutenir, comment on fait?
Ah, bien ça, avec plaisir. Vous allez voir notre site web, baluchonalzheimer.com, puis vous allez trouver les liens pour faire les dons, soit par la Fondation de Baluchon Alzheimer ou par l'organisme directement.
Merci beaucoup. Vraiment une belle initiative. Nous, on la découvre aujourd'hui, même si vous êtes présente, comme vous l'avez mentionné, depuis 1999. Mm-hmm. Donc, vous vous enlignez tranquillement sur vos 20 ans de service à la communauté. Merci d'avoir pris le temps de venir nous présenter ce chouette baluchon Alzheimer. Vous êtes Geneviève Ling, conseillère aux familles et aux baluchonneuses. On vous souhaite de très bons baluchonnages.
Merci beaucoup, Madame Pomerleau.
Ah ouais, ah bon, elle m'a demandé si c'était la première fois que je rencontrais une Julie aux cheveux noirs. J'avoue que c'est la première fois à soir, un petit Julie, ça va mieux que les blondes, je trouve pas en tout. Ah, oh, wow, 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 ma petite Julie, si t'étais pas si jeune, je t'aurais pris. Dis-toi que je t'ai un gars patient, puis viens me revoir quand t'auras 20 ans. Balabre, bip, bip, bap, bip, bap, bou. Bip, bip, bap, bou. Bip, bip, bap, bip, bap, bip, bip, bap, bip, bap, bou. On est allé au cinéma pour voir un film de Coppola. Ah, j'ai vu les Fellini puis Marcello Mastroianni. Je dis, ben ça va mal. On est allé voir son papa, le PDG de Coca-Cola. Il a dit, voyons ma petite Julie, t'es prends ma vieux, t'es plus amie. Je dis, ben toi mon vieux tabarnouche. Ah, wow, 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 ma petite Julie, si t'étais pas si jeune, je t'aurais pris. Dis-toi que je t'ai un gars patient, puis viens me revoir quand t'auras 20 ans. Balabre, bim, 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 les bandes de mots, solo d'un mot, yo! Et puis un beau soir de printemps, Julie pleurait sur le divan. C'est là mon coup, les choses qui m'ont si bien que je me suis réveillé, je dis, voyons Julie, là! C'est qui a? Elle a nagé jusqu'à mon lit. J'ai cru qu'elle allait se noyer. Elle dit, écoute-moi chérie, tu sais, je ne peux pas te quitter. J'ai dit, ben oui, ben non. Ben oui, ben oui, ben non. Oh, 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 ma petite Julie, si t'étais pas si jeune, je t'aurais pris. Si toi que je t'ai un gars patient, puis viens me revoir quand t'auras 20 ans. Balabre, bim, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, 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 bam, bim, bim, bam, bim, 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 bam, bim, bam, bim, bim, bam, bim, 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 bam, bim, bam. Aujourd'hui, Julie a 20 ans et est mariée depuis deux ans avec un coach Koutimi. Je vous dis qu'il y a un maudit bel accent. J'ai dit, teindu, teindu quoi? Elle a fait teindre ses beaux cheveux, teindu platine comme Marilyn. On s'est parlé une couple de fois au téléphone, c'était belle fun, mais on se veut plus, on se veut plus pantoute. Wow, 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 ma petite Julie, moi je suis resté jeune, mais toi t'as mal vieilli. Dis-toi que je t'ai un gars patient, puis viens me revoir quand t'auras 100 ans. Viens me revoir quand t'auras 100 ans.
Les Colocs avec leur pièce Julie, tirée de leur album homonyme Les Colocs, paru en 1993. Vraiment une superbe pièce de notre patrimoine musical québécois, mais qui n'est pas sans rappeler le décès du chanteur André Dédé Fortin, décédé par suicide. On est en pleine semaine nationale de la santé mentale. Il y a beaucoup de travail à faire pour briser les tabous entourant les maladies mentales, et un des tabous persistants est celui du suicide, particulièrement chez les enfants et les adolescents. Sylvie Lauzon, directrice de la Fondation Les Petits Trésors, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ça me fait très plaisir.
Donc, cette semaine, c'est là-dessus qu'on va se pencher, sur l'importance de briser ce tabou entourant le suicide chez les enfants, chez les adolescents. Chaque année, il y a 45 jeunes Québécois de 19 ans et moins qui mettent fin à leur jour. Et évidemment, un plus grand nombre qui font une tentative de suicide. Il faut travailler pour régler ça. C'est un problème.
En fait, oui, c'est un problème majeur. On peut se questionner pourquoi on n'en parle pas, pourquoi dans cette semaine nationale de la santé mentale qui est en cours, on n'en parle pas tant que ça. C'est certain que là, il y a eu un incident qui s'est produit la semaine dernière, donc on a parlé beaucoup de cette adolescente de 14 ans. Je pense qu'il faut... Il y a des points qui nous ancrent dans cette réalité, mais il faut en parler 12 mois par année. Et ce qu'on va tenter de faire, en fait, à la Fondation, on a décidé d'organiser une journée prévention suicide chez les enfants. Ça se passe vendredi matin. Vous aurez tous les détails en allant sur petittrésor.ca et même en venant sur le site ici de la radio. En fait, le plus difficile là-dedans, oui, il y a le tabou, mais quand on regarde ça de façon précise, est-ce qu'on comprend? C'est difficile d'imaginer. C'est déjà difficile d'imaginer qu'un adulte puisse s'enlever la vie. Quand un enfant de 5, parce que ça arrive parfois à 5 ans, quand un enfant de 9 ans, 10 ans, 14 ans pose un geste comme celui-là, ça nous remet en question. En fait, même si c'est pas ton enfant, tu te dis, moi, en tant que parent, est-ce que je pose tous les gestes qu'il faut pour que cette situation-là ne se produise pas? C'est qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe. En fait, ça va être beaucoup autour de comprendre ce que c'est que la mort, ce que ça représente, la mort, pour un enfant de 5 ans. C'est pas la même chose que pour un enfant de 10 ans, ni que pour un ado de 15 ans. Donc, on va essayer de comprendre comment l'idée de la mort se précise et devient quelque chose dans la tête d'un enfant. Et ça, c'est tellement drôle parce que j'ai eu à interviewer Marc-Antoine, qui va témoigner à notre journée. Il a maintenant 15 ans et il me parlait... En fait, il n'a jamais fait de tentative de suicide, mais il me le disait, il me racontait qu'à 9 ans, parce que en raison d'une situation familiale difficile, c'est souvent l'un des facteurs de risque, il avait envie d'aller ailleurs. Et pour cet enfant de 9 ans-là, aller ailleurs, ça voulait dire s'envoler. Et lui, comme il allait souvent patiner, il s'imaginait monter sur l'édifice en haut duquel il patinait et de sauter dans le vide. Et donc, dans le fond, être ailleurs, pour lui, ça n'a pas plus de conséquences que ça, mais s'il avait posé le geste, il se serait enlevé la vie. C'est souvent ça qu'il faut essayer de comprendre.
Beaucoup plus de conséquences à son geste.
C'est en plein
ça. Beaucoup de répercussions, en fait, sur les familles. Justement, c'est ce qui peut causer ces idées suicidaires, même si on ne sait pas que ce sont des idées suicidaires. Il y a beaucoup de choses. Il y a des pertes affectives, une famille éclatée, de l'exclusion, de l'intimidation à l'école, même la question de la quête identitaire aussi, qui est extrêmement importante et qui commence très tôt, qui commence au primaire, quand on est jeune. Ça peut se transformer en trouble émotionnel.
Oui. Ben, en fait, les émotions, c'est beaucoup ce qui est au centre de toutes ces problématiques-là. Puis on dirait qu'on a de la difficulté à gérer nos émotions. En tant qu'adulte, on a de la difficulté. Imaginez-vous quand on a 5-6 ans. Puis cette fameuse quête identitaire-là, là, moi, je ne suis pas ni psychologue ni pédopsychiatre, ça commence petit. Pensez à un enfant de 5 ans qui veut tellement plaire à sa mère ou à son père. On est tous passés par là, on passe tous par là. À un moment donné, on a besoin de leur plaire, de faire partie de ce noyau-là. À un moment donné, on a besoin de s'en dissocier. L'adolescence, ce qui me fait mourir de rire toujours, c'est qu'on veut être unique, mais en même temps, on s'habille ou on s'organise pour être tous pareils. Alors, toutes ces contradictions-là ne sont pas vécues de la même manière par les enfants. Il y en a certains qui sont plus fragiles que d'autres. Tu sais, la perception qu'on a d'une chose, par exemple, ta mère peut te dire quelque chose, toi tu vas le prendre bien, l'enfant d'à côté, même âge, même famille, le frère ou la sœur va le prendre d'une manière difficile. Alors c'est tout ça qu'il faut essayer de comprendre et de voir, et on parle beaucoup d'intimidation, on parle beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup de suicides ou de tentatives de suicide qui sont souvent liées aux médias sociaux parce que c'est dans ce contexte-là qu'on vit maintenant.
Et c'est un nouveau phénomène aussi, parce que ça fait pas très longtemps, mais il y en a même qui les mettent en ligne, qui qui mettent leur détresse oui. en ligne.
Et c'est
avant.
Pour ça qu'on développe des outils maintenant pour essayer de remarquer cette détresse-là sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, je pense qu'on souffre tous, la société souffre d'un manque de la maladie du lien. On n'a plus de véritables liens les uns avec les autres. Et quand on parle de facteurs de protection, et ça, c'est très intéressant, ça a été développé à l'hôpital Rivière-des-Prairies par les spécialistes là-bas. En fait, il y a les facteurs de risque, mais en même temps, les facteurs de protection, ça permet aux spécialistes de travailler sur le cœur du problème et, en fait, ça résout... Ça permet aux enfants de guérir plus rapidement. Et juste pour vous donner une idée, par exemple, facteur de risque, on se dit, est-ce qu'on essaie de bâtir la vie intérieure de ces enfants-là? C'est quand même assez particulier de parler de ça pour un jeune enfant de 8, 9, 10 ans. Mais bon, cet enfant-là n'a pas de but dans la vie ou... C'est petit, mais on peut développer cette conversation-là avec ses enfants. C'est ça qui est tellement insaisissable, la Moses de maladie mentale, c'est que... C'est abstrait et les solutions qu'on trouve nous semblent tellement anodines quand on en parle comme ça. Mais tout à coup, si on se mettait à essayer d'améliorer les liens qu'on a les uns avec les autres, avec nos enfants et entre nous tous, et si on se mettait à peut-être renouer certains liens, ça nous permettrait... En fait, de nous accrocher à quelque chose, d'avoir des raisons de vivre qui sont peut-être plus concrètes que ce qu'on peut imaginer. C'en est une, ça. Ou développer des manières, on dit coping en anglais, des manières de réagir ou de faire face à l'adversité. Quand t'as 5 ans, 10 ans, 12 ans, t'en as des obstacles à franchir. C'est pas les mêmes que les adultes, mais t'en as. Et si t'apprends, et ça, je pense que la beauté de la chose, les facteurs de protection, là, vous irez sur le site de la Fondation, je vais mettre un texte qui les décrit un petit peu. Je vais vous mettre aussi une bibliographie qui donne référence à des livres où vous pouvez aller plonger là-dedans. En fait, c'est de recréer, de réinventer la conversation.
Exactement.
Tout simplement, de parler, tu sais, parce qu'on a l'impression sur les réseaux sociaux qu'on est en contact avec la planète. On est en contact avec la planète, mais est-on en relation? Et dès qu'on a quelque chose qui nous accroche à un autre, on a beaucoup plus de facilité à vivre le quotidien, même quand il est difficile. Et peut-être que les idées qui nous passent par la tête vont s'effacer lentement, mais sûrement. Tu vois, pour le petit Marc-Antoine, qui a eu ces idées-là de l'âge de 9 ans jusque vers la douzaine d'années, il me dit que ces idées-là sont disparues de son esprit le jour où il a eu les mots pour les dire. Alors, à 9 ans, t'as peut-être pas les mots exacts, mais si on travaille sur la conversation, et pas juste la conversation en réseau, mais la conversation face à face, moi, je pense juste, puis je m'inclus dans l'eau, je vis à la maison avec mon fils est sur son ordinateur, je fais mes affaires de mon côté. Dans le fond, on pourrait vivre dans deux maisons différentes à des kilomètres de distance, puis on aurait peut-être pas beaucoup plus d'occasion de se parler. Alors, je pense que la solution du problème... Elle vient de là, tout simplement. Et c'est pas de se sentir coupable de pas faire les choses correctement, mais c'est de travailler sur les choses qui nous sont positives dès le plus jeune âge. En plus, si on a réussi à bien créer, à bien développer la communication avec nos enfants, ben l'adolescence va être moins difficile à traverser.
Justement, cet aspect-là de la conversation, du dialogue, en fait, qui est parfois à créer, d'autres fois à recréer aussi, à réparer, il est parfois sous-estimé. Plusieurs personnes croient à tort que le fait de parler de suicide, le fait de parler de dépression, d'idées suicidaires avec leurs enfants pourrait les inciter à passer à l'acte. Alors que c'est l'inverse.
C'est l'inverse. En fait, tout ce que ça contribue à faire quand on n'en parle pas, c'est à alimenter le tabou. Tu sais, on essaie de faire diminuer les chiffres. Puis moi, j'aime pas beaucoup parler de chiffres parce que c'est des individus qui posent des gestes, c'est des gens qui sont nés, qui ont respiré, qui ont eu des envies, qui ont vécu des plaisirs, des bonheurs et qui, à un moment donné, ont posé un geste. En fait, en parler, ça démystifie, ça dédramatise et ça fait que les gens avec lesquels on en parle vont peut-être se tourner vers nous lorsque le moment va être venu, ou lorsque ces idées-là vont commencer à habiter ton esprit. Tu sais, dans le fond, la conversation, en fait, aussi, discuter de ça, ce qui va faire la différence, c'est une personne significative. Alors que cette personne significative-là, ça soit un petit ami de 10 ans, que ce soit la mère, le père, que ce soit un cousin, une amie de la famille, rit. Ça, c'est pas grave. C'est de développer un lien qui nous ramène à notre humanité et qui nous fait espérer le meilleur de la vie. Ça, je pense là, qu'on peut tous y arriver, même quand on a des idées, quand on est de nature dépressive. Et ça, je vous dirais que jusqu'à l'âge de 40 ans, ce qui me concerne, j'ai eu des idées suicidaires jusqu'à ce moment-là. Alors, je le sais, c'est quoi? J'ai vécu ça, j'ai vécu la détresse. La détresse n'est jamais très loin, même quand tu as développé d'autres moyens d'affirmer et d'avancer dans la vie. Mais ça se fait, et même avec nos petits, ça se fait, et il faut cultiver cette communication-là.
Pensez-vous qu'on est bien outillé socialement dans notre société, dans nos différentes institutions, comme l'école, par exemple? De ce phénomène-là.
En fait, je pense pas du tout qu'on est bien outillé. C'est clair que l'école te forme pour vivre dans une société de performance, c'est-à-dire que tu vas prendre des cours d'économie, des cours de maths, des cours de français, des cours d'histoire, de géo. Mais quand est-ce qu'on va t'apprendre? Et même les cours d'éthique religieuse, c'est parce que c'est devenu tellement n'importe quoi et ça peut tellement être n'importe quoi et différent d'une école à l'autre. En fait, les relations, on devrait avoir à l'école des cours sur les relations humaines. Comment est-ce qu'on développe, comment est-ce qu'on établit un lien avec quelqu'un? Comment est-ce qu'on entre en communication avec quelqu'un? Comment est-ce qu'on développe le lien avec quelqu'un? Comment on développe une relation significative avec quelqu'un? Si on enseignait ça dès le primaire, là, parce que je trouve qu'au secondaire, il est déjà trop tard pour commencer ça. Il faut faire ça tout petit. Je suis certaine qu'on créerait des êtres... En fait, qu'on permettrait à des êtres humains de se déployer encore mieux et encore plus.
Bien, c'est quelque chose qui va se passer. On va avoir des outils, entre autres, à cet événement de sensibilisation le 6 mai. Sylvie Lauzon, directrice de la Fondation Les Petits Trésors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je remercie tous mes invités, Geneviève Ling aussi, Valérie Kemper, Caroline Lebeau et Dany Prudhomme en début d'émission. Je remercie mon équipe technique, recherche et médias sociaux, Christiane Campagna, mise en onde, Jean-Sébastien La Liberté. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.